Nous sommes en compagnie de Patrick Marty, qui a fondé avec Sugar Fay les éditions Fay. Scénariste et réalisateur, Patrick Marty est l'auteur de la série Juge Bao, de la balade de Yahya et de l'ombre de Shanghai. Il a donc récemment créé avec le dessinateur Golo Tsao Kushi, dont le quatrième tome vient de paraître. Sa librairie, galerie et maison d'édition se trouve à Paris, à deux pas de Notre-Dame, au 1 rue Frédéric Sauton. Et pour l'heure, il est dans le studio de Radio Campus à Villeneuve-d'Ascq. Alors Patrick Marty, vous écrivez aujourd'hui des textes de bande dessinée. Mais finalement, quand on regarde votre bio, qui est sur Internet, on s'aperçoit que quand vous aviez 20 ans, ce sont les dessins que vous auriez pu faire plutôt que les textes.
Oui, on ne peut rien cacher maintenant, tout est sur Internet.
Ah oui, il n'y a plus de déclinaisons.
Oui, non, c'est mon parcours universitaire dont vous voulez parler. J'avais embrassé un cursus universitaire qui me destinait à devenir enseignant, en fait. Enseignant en arts plastiques. J'étais quand même bien touché par le virus du cinéma à l'époque. J'ai commencé à faire des films avec mes amis étudiants, et on était une bande de 3-4 comme ça qui étaient complètement mordus. Après m'être inscrit à 3 reprises au CAPES, je me suis pas présenté. Et parce que je sentais que c'était pas pour moi, en fait, l'enseignement. Je crois que tout le monde aurait été malheureux, les élèves et moi, et j'ai embrassé cette carrière au sein du cinéma, de la grande famille du cinéma, comme on dit, avec des aléas, des allers-retours entre la télé, le court-métrage, le cinéma, enfin bon, bref. Et voilà.
Et ça reste dans l'image, ce
livre. Ça reste dans l'image, et je vous avoue très franchement que arriver calife à la place du calife, quand on m'a proposé de passer derrière la caméra et de devenir réalisateur, mes années d'apprentissage et notamment en histoire de l'art m'ont énormément servi, parce que c'est une culture de l'image que je pense tout le monde devrait avoir. De l'art pariétal à nos jours, connaître un peu la peinture, la sculpture, l'architecture, c'est quand même la moindre des choses quand on veut mettre en scène et en image. Enfin, il me semble.
Et puis même quand on ne veut pas mettre en scène et en image, d'ailleurs, je pense que l'histoire de l'art, c'est bon pour tout le monde. Alors donc, finalement, l'image qui bouge. Mmh. Et comment, quel est le déclic qui a fait de vous un scénariste de BD? Comment on passe de l'image qui bouge à l'image qui ne bouge pas?
Alors, je crois que je vais un petit peu extrapoler, me sortir un tout petit peu de la question pour vous dire une chose qui, parce que j'y ai longtemps réfléchi, je crois que je fais le même métier, en fait, que je fasse de la télévision, de la fiction télévisuelle, comme on dit, de prime time, des courts-métrages de cinéma, ou que j'écrive pour le cinéma, ou la bande dessinée, je ne fais qu'une chose, en fait, la même chose, c'est toujours la même chose, c'est raconter une histoire. Donc, ma sensibilité m'avait amené aux arts graphiques, mais j'ai toujours été attiré par les arts de la scène également. Donc, en fait, j'ai fait un savant petit mélange de tout ça. Et j'ai très très vite, de toute façon, en écrivant, en voulant écrire du film, on passe par le dialogue, on passe par le découpage, etc. Donc, en fait, on raconte des histoires avec des paroles. Donc, c'est très tôt que le scénario entre en ligne de compte et qu'il faut se plier à cet exercice qui est absolument épouvantablement difficile.
Et d'ailleurs, on dit scénariste de BD aussi.
Oui,
on emploie le même mot.
Oui, scénariste. Alors, il se trouve que mon passé de cinéaste, je pense, déteint assez fort sur mon travail de scénariste de BD, comme vous dites, parce que je suis très très précis, notamment au niveau des cadrages, de la mise en scène et des profondeurs de champ, des amorces, etc. Donc quand je fournis un scénario à mes camarades dessinateurs chinois, notamment Shang Renier pour le Juge Bao, ou bien Golo Zhao pour la balade de Yahya, ou même Kushi, puisque c'est de Kushi qu'on parle aujourd'hui, je leur fournis un découpage précis, complet, avec la nature des plans, l'enchaînement des plans par page, etc. Donc je ne peux pas m'empêcher d'être réalisateur, même en bande dessinée. Voilà.
Alors finalement, on peut imaginer qu'on tournerait un film avec Kushi.
Ah ben c'est même on peut très 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 bien l'imaginer, puis c'est même un souhait que je vais porter et j'espère pouvoir concrétiser dans les années qui viennent. Je peux vous livrer un tout petit scoop qui est celui qui consiste à dire que la balade de Yahya, que pas mal de gens connaissent, va être porté à l'écran et donc sortir au cinéma dans quelques années maintenant, parce qu'il faut le temps de le fabriquer. C'est quand même un programme très 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 lourd, une fabrication lourde. Mais on espère voir donc les aventures de Yaya et Tuchou donc tirées de la bande dessinée La Balade de Yaya autour de 2020. Voilà.
Alors un film avec des acteurs en chair et en os ou d'animation ?
Non, d'animation. Un film d'animation qui va s'inspirer, qui sera assez proche, je pense, de l'univers de Golozao également. Ouais. En ce qui concerne Kushi, puisqu'on en parle aujourd'hui plus précisément, je pourrais plutôt le souhait de revenir aux affaires, si je puis dire, et de faire un film live. Et là, pour le coup, j'aimerais beaucoup faire ce film-là, c'est-à-dire réaliser ce film-là en Mongolie.
Voilà un beau projet, en tout cas.
Oui, c'est un joli projet. Puis ça fait aussi très 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 longtemps que je souhaite diriger des enfants et voilà, c'est tout est là, tous les ingrédients sont là. Mon amour presque désespéré, parce que je rêve d'aller parcourir la grande steppe mongole et donc y travailler, ça serait merveilleux.
Ouais. En tout cas, vous nous la faites parcourir avec Kushi, et puis il y a du vent, des grands espaces, ça respire. Pour en revenir à la BD, j'imagine que c'était une passion de jeunesse, hein, comme beaucoup, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais est-ce que vous avez le souvenir de la première BD que vous avez lue ?
Alors, la première BD, je pense que les toutes premières BD que j'ai pu lire, alors il y aura Pif, mais dans les anciens formats que peu de gens connaissent, qui
carré.
Sont... Ouais, carré, ouais, ouais, absolument.
Connu ça, oui.
Et, ben ouais, c'est un petit peu l'affaire des quinquas, hein. ça remonte assez loin. Et puis je me souviens de cartons entiers du journal de Mickey qui m'avait été donné un été, je crois, je devais avoir 7-8 ans, où j'ai dévoré absolument tout ce qui se faisait à l'époque. Et puis bien sûr ensuite c'est Pif Gadget, hein, et puis ensuite on a très 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 vite pris le relais avec Flic Glacial, etc. Flic Glacial, et puis ensuite L'Écho des Savanes, etc., etc. Donc en fait, la BD, je l'ai souvent connue. Voilà, les premières, c'est Pif. Et puis, il y a quand même des petites choses sympas quand on creuse un tout petit peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on allait dans les stations-service, quand on était gamin, au bout de quelques pleins, je sais pas, on avait des bonus et on pouvait obtenir des bandes dessinées de Lucky Luke. On avait du Lucky Luke. Il y avait d'autres, je crois qu'il y avait Lucky Luke. Il y avait peut-être les Tuniques Bleues. Il y avait peut-être, je sais pas s'il y avait pas les Schtroumpfs. Enfin bon, voilà quoi. Et ça fait partie aussi de mes premières collectes. Voilà, on collectionnait les albums cette façon-là.
Ouais. Donc une vraie culture de BD quand même.
Oui, on peut dire ça. Oui,
c'est vrai, au départ,
au départ,
c'était un
et
univers.
Puis,
qui...
puis bien sûr, après, il y avait les Hakim, toute la BD issue de cette inspiration américaine, mais qui était bien sûr dessinée, scénarisée par des Italiens, traduite, etc. C'était les Tex, les Black Le Rock, les Hakim, tout ça. Les Ambla, cette BD noir et blanc de kiosque qui était très très peu chère et très très abordable pour les petites bourses, hein. Et ouais, j'ai dévoré ça quand j'étais gamin.
Alors vous êtes un grand lecteur de BD, mais vous êtes un grand lecteur tout court, j'imagine.
Ah oui, bien sûr. Vous savez, j'ai eu l'immense bonheur d'être élevé à la campagne, dans le Périgord. Et j'ai eu la grande chance d'avoir une institut absolument merveilleuse, très éclairée, qui le matin nous enseignait de façon complètement traditionnelle, classique, le programme institué par l'éducation nationale. Et l'après-midi, nous avions droit à une pédagogie un peu particulière qui était celle de Monsieur Freinet. Donc en fait, l'après-midi, j'avais le bonheur d'évoluer dans cette pédagogie qui était absolument une ouverture monstrueuse pour nos petites cervelles. Et étant à la campagne, voilà, j'avais pas trop d'accès et au niveau de ma famille, au niveau de mon entourage à la culture. Mais grâce à cette ouverture-là, et notamment au bibliobus qui passait, alors ça c'était formidable, parce que dès qu'il débarquait dans le village avec ses caisses en bois et on se jetait comme des morts de faim, enfin moi personnellement je me jetais comme un mort de faim sur tout ce que je pouvais trouver, donc c'était les Jack London, c'était Gros Blanc, c'est tout ça, c'est tout ce que j'ai pu bouffer comme littérature à cette époque-là, m'oliant aux grands espaces, aux petites aventures, aux grandes, aux moyennes, j'ai dévoré ça quoi. Donc j'étais un enfant solitaire, j'étais seul, hein, de mon âge, j'étais élevé par mes grands-parents. parents. Mon terrain de jeu, pas de barrière, puisque je pouvais prendre mon vélo, mes jambes, tout ce que je voulais, partir, revenir, et partir le matin, rentrer tard le soir, à part me faire engueuler parce que je rentrais dégueulasse, mais voilà, c'était ouvert, quoi. Donc ouais, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris un goût enfin, c'est fou quoi, j'ai tout bouffé quoi.
Là, c'est ça, une passion.
C'est une passion, ouais.
Et pour l'aventure aussi, on dirait.
Et pour l'aventure, ouais, beaucoup.
Qui est passé par la lecture, comme beaucoup d'enfants de cette génération. Alors c'est grâce à la Chine que vous êtes devenu éditeur, ce me semble, mais l'histoire d'amour entre vous et la Chine ne date pas de toute éternité.
Non, parce qu'en fait, moi j'ai rencontré une Chinoise un peu folle, je dois dire, un jour à Paris dans un parc, et on a discuté, et elle travaille dans la pétrochimie, figurez-vous, donc rien à voir avec l'édition, mais elle m'a parlé de son amour incroyable pour la littérature et son désir fou de devenir un jour éditrice, de faire des livres, quoi. Et moi, à l'époque, je travaillais pour France Télévisions, je crois, ou je sais plus qui, peut-être M6, je sais plus, j'étais réalisateur télé, quoi. Je faisais des films pour la télévision, et je vous avoue, j'en avais un petit peu marre, j'avais envie d'un petit peu de changement, et elle aussi, beaucoup, puisque la pétrochimie, c'est pas quelque chose qui vraiment la satisfaisait pleinement. Donc, on a sauté le pas, en fait. On s'est dit, voilà, on va s'associer. Je lui ai présenté un ami à moi qui était fan de BD aussi, qui est un banquier de la microfinance, qui est un type absolument extraordinaire, qui touche à tout, un type génial. Et il nous a accompagnés dans cette aventure-là. Et on a monté une maison d'édition, ça c'était en 2009, donc à peu près un an et demi après notre rencontre, on ouvrait cette maison d'édition. Et puis je crois que c'est 2010, on a en 2010 fait le festival d'Angoulême, donc de la BD d'Angoulême, avec un seul titre sur un petit stand de 2 mètres carrés, c'était Le Juge Bao, et ça a été une folie furieuse. C'est-à-dire que c'est génial, cette histoire est géniale, parce qu'en fait, on nous avait donné la possibilité d'exposer des planches de Chambrinier dans l'hôtel de ville. Et les gens ont vu le talent inouï de ce type-là, et ils se sont rués, parce qu'on avait donné l'endroit où on se trouvait dans la bulle New York, là où il y a tous les indépendants, et on a eu une influence absolument dingue, mais dingue, pendant 4 jours, à tel point qu'on a, de mémoire, vendu 630 livres. Donc 630 exemplaires d'un seul livre, hein, du premier tome de Juge Bao. Et mon camarade Changuinier qui se levait la nuit, bon, ça tombait bien parce qu'il était complètement jet lag, il a dû dédicacer quelque chose comme 400 bouquins, quoi. C'est une pure folie. Et ça a lancé les éditions Fay, aussi bien que la série Bao qui continue toujours d'ailleurs d'être très très prisée par les fans, quoi.
Ça, c'est un vrai succès. Et donc, grâce à Angoulême, finalement, enfin, grâce au talent de ce dessinateur et c'est vous qui avez écrit le texte. Hein,
oui,
donc voilà. Alors moi, j'aimerais quand même que vous racontiez assez rapidement, en quelques mots, qui est cette Sougefeuille dont on vient de parler, qui est votre associée. Moi, je trouve que c'est une jeune femme chinoise qui a un parcours qui force le respect, qu'on a pu lire dans Petite Fleur de Mandchourie, paru il y a quelques années chez XO Éditions, et puis qu'on a pu écouter aussi dans Bruit de Chine. Mais juste pour ceux qui ne la connaissent pas, en une phrase, qui est Sougefeuille?
Alors, en une phrase, qui est Sougefeuille, c'est impossible à résumer, parce que c'est réduire à... Elle est extraordinaire, inclassable et surprenante, ça ne suffit pas. Je crois que c'est... ce qui est intéressant, justement, dans cette bio, moi, j'encourage les gens à la lire, parce que c'est, ça nous éclaire aussi sur toute une génération de jeunes Chinois, parce qu'elle représente aussi ces Chinois qui ont une trentaine d'années aujourd'hui et qui ont quitté le territoire chinois pour découvrir un peu le monde. Alors, la particularité de Fay, quand même, c'est qu'elle n'est pas du tout universitaire. Elle a quitté l'école à l'équivalent de la troisième chez nous. Et on la retrouve aujourd'hui aux commandes, par exemple. Elle est directrice générale des éditions Hachette pour la Chine, hein, en ce moment à Pékin.
Quel parcours !
Oui, c'est énorme. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle était quand même directrice générale d'une société de pétrochimie, de conseil en pétrochimie sur Internet, une société française, et elle animait l'antenne chinoise. Donc, elle a énormément de qualités, elle est très originale et très surprenante, et surtout, elle avance sans aucune peur. Alors, on pourrait la résumer avec cette phrase, je crois, de Roosevelt qui disait La vie est une aventure osée ou, et rien d'autre. Donc en fait, il n'y a pas d'alternative. Il faut y aller. Voilà. Et ça caractérise vraiment Faye, ce caractère de fonceuse.
Mais je trouve qu'elle résume aussi la Chine de son époque. Elle a, enfin, je pense, une quarantaine d'années.
Elle a 38 ans.
Ah, je ne suis pas loin. Mmh. Donc voilà, et c'est ces années qui caractérisent la montée de la Chine, la montée en puissance de la Chine. Et elle résume cet esprit, je trouve.
Alors, elle résume, oui, c'est vrai, elle peut résumer effectivement cet esprit, mais il y a quelque chose en plus chez Faye qui fait que, comment dirais-je, vis-à-vis de ses concitoyens, ses concitoyennes, quand Faye est très décalée, elle a quelque chose de, elle a su capter quelque chose de très occidental en même temps, qui l'a franchi énormément de plein de choses. Et en France, on l'aime aussi beaucoup parce que elle a cette indépendance d'esprit, elle est totalement originale et elle sort totalement du moule dans lequel peuvent être encore engoncés des gens qui sont passés par l'université, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, je pense que en ayant très tôt choisi l'indépendance, c'est-à-dire dès l'âge de 16 ans, 17 ans, sans parcourir la voie royale, si je puis dire, et en tentant des expériences tellement variées, elle a acquis aussi une personnalité très 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 originale. Alors, d'un côté, effectivement, elle ressemble à un peu à cette génération qui s'expatrie, qui tente des choses, qui est entreprenante, etc.
Voilà. Une Chine qui s'ouvre.
Et une Chine qui s'ouvre. Mais par ailleurs, elle est aussi très, très très à l'aise dans la société française ou la société anglo-saxonne, puisque elle aime beaucoup aussi la société américaine. Voilà, elle a pas mal d'amis là-bas.
Finalement, elle est hors de tous les moules.
C'est un peu ça, oui. Voilà. Elle est assez inclassable.
Électron libre,
on
dirait.
Électron libre, tout à fait.
Alors les éditions Faye sont à la fois dans la création, comme avec Cushy ou d'autres, mais aussi dans la transmission du patrimoine culturel chinois.
Oui, alors on a fait un très 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 joli travail qui a été passionnant à réaliser, qui a été, si vous voulez, moi je me souviens avoir découvert avec Faye justement dans les marchés à Shanghai notamment, avoir découvert ces petits, alors je le prononce très très mal, les lianhuanghua, c'est-à-dire ces petites bandes dessinées traditionnelles chinoises qui sont d'un tout petit format, que l'on peut ranger aisément dans la pochette de la chemise, et qui se reconnaît aisément puisque sur chaque page il n'y a qu'un seul dessin avec des didascalies en dessous et très 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 peu de phylactères, très peu de bulles, et en général on y retrouve les grands mythes chinois ou bien comment Pasteur a découvert le vaccin de la rage, ou bien une adaptation de Notre-Dame de Paris ou de la Dame aux Camélias. Bon, bref, c'est très 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 varié, beaucoup aussi d'histoires liées à la grande geste communiste liée à la grande armée de Mao, etc. Tout cet héroïsme donc qui est sur ce petit livre là donc c'est l'art populaire le plus simple et le plus direct. Et pour parler donc de ces quatre grands classiques que donc nous avons adaptés, traduits et adaptés pour le public français, c'est effectivement Mao qui l'a voulu au début des années 50. Il voulait que le peuple ait accès aux grands classiques chinois et il a demandé aux meilleures maisons d'édition donc de faire travailler des dessinateurs et des scénaristes pour réaliser ces objets-là. Ça a mis du temps, puisqu'il y a eu entre-temps, malheureusement, la révolution culturelle, donc le chantier s'est interrompu. Parfois, les travaux ont été brûlés ou perdus. Et on a recommencé à la réouverture de la Chine, c'est-à-dire en 79-80, avec Deng Xiaoping, qui a réouvert le chantier. Et donc, ces albums, et ces coffrets, donc, puisque là, notamment pour Bord de l'eau, on a une trentaine de volumes. Pour Voyage vers l'Ouest, je crois qu'il y en a une trentaine aussi. Pour Les Trois Royaumes, il y en a 36. Et il y en a 16, je crois, pour Rêve dans le pavillon rouge. Donc, on a pris ce qu'il y avait de meilleur en Chine. On est allé voir les maisons d'édition. On a donc acheté les droits, reformulé un tout petit peu, repaginé, traduit. En tenant compte aussi, pour le texte, de ce que les Français connaissaient au travers des traductions qui sont dans la Pléiade, notamment pour Au bord de l'eau. Donc, on ne pouvait pas être trop en dessous non plus de ce niveau-là. Donc on a fait un travail d'adaptation assez, assez fin pour rester dans à la fois l'art populaire et en même temps avoir un niveau de langage assez raisonnable, quoi.
Et est-ce que c'est unique en Europe, cette
démarche ?
C'est
unique en Europe. Ça n'a jamais été traduit que par nous, en fait. Et on envisage d'autres traductions, d'ailleurs, autour de ces
albums.
Donc
même pas en Amérique.
Non. Non, ah oui. C'est une première mondiale, effectivement.
D'accord, vous avez une niche d'enfer, là. Effectivement, j'imagine que ça va donner pas mal de choses intéressantes. Ouais. Alors, ce serait intéressant de faire aussi un petit peu d'histoire de la BD chinoise, parce que là, voilà, on dit que vous reprenez des choses qui existaient, mais quand est née la BD chinoise ?
Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Il y a un spécialiste en France qui s'appelle Laurent Méliquian qui connaît bien ce sujet-là. Ce que je peux dire, c'est que ce type de bande dessinée très facilement transportable, qu'on peut donc mettre dans le bleu de chauffe, là, dans la petite poche de la chemise, ça apparaît dans les années 20-30 à Shanghai notamment, parce que je pense que c'est dû aussi à l'utilisation, à la mécanisation de l'imprimerie importée par les Occidentaux, notamment au niveau des journaux. C'est-à-dire que c'est sur du papier journal d'acier piètre qualité, en fait, enfin de la qualité de papier journal, quoi, que sont imprimés ces petits ouvrages-là. Par milliers de tonnes, hein, je pense, parce que là, ça a été très vite un grand engouement pour la population. On les louait. Il y avait des petits marchands de bandes dessinées qui se mettaient sur le trottoir. Il y a Ryojo, justement, qui a illustré ça, qui est un grand dessinateur disparu il y a peu, qui a illustré les petits métiers de Shanghai. Notamment, il y a des dessins de lui où on voit des vendeurs, des loueurs, en fait. Des vendeurs et des loueurs, parce qu'on pouvait louer quelques centimes pour lire pendant 30 minutes, une heure, une histoire de son choix sur des petits bancs, des petits tableaux. Ou si on a même le trottoir dans les rues de Shanghai. C'est assez marrant. Donc oui, je pense pouvoir dire que c'est autour des années 20-30 à Shanghai qu'est né ce type d'ouvrage, et ensuite ça a explosé.
Alors vous avez parlé de Mao, qui a développé au début en tout cas les grands classiques chinois, mais après, au moment de la révolution culturelle, ça s'est gâté, et j'ai l'impression que c'est à Hong Kong que la bande dessinée a pris tout son essor.
Enfin, si vous voulez, ça s'est gâté. Il y a eu une volonté de faire passer un travail de propagande autour de, en prenant ce vecteur-là. La bande dessinée a pris aussi une direction plus pédagogique, didactique, en voulant enseigner. C'est-à-dire que, bon, quand je parlais de Pasteur, il y avait aussi les lois de la relativité d'Einstein qui étaient mises en bande dessinée par, voilà, en BD. Et puis les auteurs étrangers, comme Victor Hugo. D'ailleurs, le Fay a appris à lire avec les BD de son père, qu'il collectionnait et achetait, voilà. Donc en fait, la bande dessinée traditionnelle comme celle-ci, elle a évolué, elle a changé un petit peu de cap. Mais par ailleurs, après la bande dessinée, alors la bande dessinée, c'est compliqué de faire comprendre aux auditeurs que la bande dessinée chinoise, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce que nous pouvons connaître nous ici dans l'univers franco-belge, et encore tout à fait différent des mangas japonais. Donc oui, effectivement, après, si on veut parler du contenu et de la liberté de ton, c'est plutôt du côté de Hong Kong qu'il faut aller chercher ça. Et puis après, oui, plutôt dans les années 70-80 que ça prend un autre essor. Ouais.
Alors justement, qu'est-ce qui distingue la BD chinoise d'aujourd'hui, en tout cas, de la BD française, par exemple ?
Alors la BD chinoise, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu dur de dire ça, mais la BD chinoise n'est pas très très répandue en fait en Chine, hein, il faut le dire. Oui, la BD chinoise, elle est
un peu marginale
parce que pour des raisons tout à fait qui s'entendent tout à fait, c'est-à-dire que aujourd'hui vivre de son art, même en France, hein, et j'en sais quelque chose, c'est très compliqué. Et donc les jeunes Chinois qui sont très doués et qui veulent faire de la BD par exemple ne trouvent pas forcément un marché autour de pour leurs œuvres, d'une part parce qu'elles sont assez mal répertoriées. La bande dessinée en Chine est plutôt quelque chose qu'on destine aux enfants justement, Et la bande dessinée adulte, ma foi, elle va tout de suite sauter au lion ronron, c'est-à-dire au BD traditionnel. Mais pour ce qui est, par exemple, de l'immense variété que nous pouvons avoir ici en France, c'est pas la peine d'y compter. Dans les librairies en Chine, on ne trouve pas ça.
Il n'y a pas de BD de création, en fait.
Non, très peu. Très 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 peu, c'est même rien du tout, quoi. Donc en fait, la BD chinoise existe, c'est dur de le dire, mais mieux en France et à l'étranger qu'en Chine elle-même.
Grâce aux éditions Fei. Alors justement, pour Golo Tsao, comment ça se passe? Lui, il est dessinateur à part entière.
Eh bien, il travaille en France, principalement.
Ah, moi qui l'imaginais à Pékin.
Non, il travaille pour les Français, c'est-à-dire qu'il vit à Pékin et il travaille pour les éditions Fei, il travaille pour Glénat, il travaille pour Casterman, des gens comme ça. Donc il est, après l'aventure de la balade de Yaya, c'est quelqu'un qui s'est vraiment fait remarquer dans la planète BD et il a été très très sérieusement courtisé par nos amis éditeurs, je dirais nos amis parce que je veux pas parler de concurrence, mais il a été happé un peu par des grosses maisons qui lui ont offert la possibilité de travailler, c'est très bien. Donc il peut continuer et vivre de son art tout en vivant et travaillant chez lui à Pékin avec sa femme et son bébé, puisqu'il est le repapa d'un petit garçon là depuis peu. Voilà.
Bon ben voilà, on le félicite. Hein. C'est l'auteur qui fait le choix du dessinateur en BD.
Dans mon cas, oui.
Et le critère pour Golo Tsao, par exemple?
Pour Golo Tsao, c'est pas mal de recherches, pas mal de tâtonnements, et puis un peu comme Nier aussi, Chongrunier pour Bao, on tombe sur un talent, et il y a comme une évidence. Voilà, ça s'est fait immédiatement, je crois que ça prend 2 minutes et demie, puis on se dit non mais c'est ça, voilà, c'est la rencontre, c'est une rencontre. C'est un peu comme quand vous castez un comédien ou une comédienne pour un film. Vous savez de toute façon que la personne que vous avez en face de vous, qui vous a rendu la réplique et qui vous avez partagé un moment, ça sera elle ou ça sera lui. Ça se fait comme ça, quoi. C'est une rencontre. Voilà. Il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
C'est un peu comme le choix d'un compositeur avec un réalisateur.
Oui,
c'est une histoire d'univers, en fait.
Je crois. Oui, je crois. Je pense que Bao, la réussite du juge Bao, c'est en grande partie due à cette rencontre-là. C'est drôle d'ailleurs comment on arrive à fabriquer un univers, c'est-à-dire que le dessinateur, si j'arrive avec une histoire, le dessinateur propose une telle ampleur à l'univers, c'est-à-dire qu'il le fait naître, en fait, il le fait éclore avec son dessin, et là on arrive à fabriquer quelque chose, c'est-à-dire que ça prend une autre dimension. Au point que je pense que si j'ai écrit un premier tome de Bao, les suivants se sont aussi... constitué autour de cet univers que nous avions mis au point dans le premier. Et je pense qu'il m'a cynisé, en fait, mon camarade Chongrunier. C'est-à-dire que j'ai eu souvent cette remarque-là, et notamment en Chine, puisque la BD a été quand même traduite en chinois et éditée en chinois. Elle était également traduite en américain, donc elle existe aux États-Unis, en Hollande, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. Mais pour les Chinois, et ça m'a énormément surpris, ils ont cru que c'était un scénariste chinois qui avait écrit cette histoire-là. Et en France aussi, on me l'a souvent dit. On me dit « Ah, vous avez traduit, adapté une histoire du juge Bao ?» Non, pas du tout. Non, j'ai recréé les enquêtes du juge Bao.
Donc c'est, voilà. C'est en tout cas un beau compliment.
Mais je pense que c'est aussi dû à énormément de recherches de ma part, parce que bon, il fallait
vous immerger.
Voilà. Et puis l'influence de ce dessinateur qui a vraiment donné vie au personnage, à l'univers.
J'imagine que vous passez pas mal de temps en Chine aussi.
J'y vais assez régulièrement, oui.
Voilà.
Oui.
Comme ça, vous vous imprégnez d'une certaine atmosphère.
Je suis même allé dans la ville natale du juge Bao, aussi bien d'ailleurs à Shanghai, qui est la ville natale de Yaya. Alors, je ne suis pas encore allé, malheureusement, suffisamment en Mongolie pour pouvoir suivre les traces de Cushy, mais là, j'irai la prochaine fois et je ferai des repérages pour le film. Voilà, ça sera
formidable. Alors, en fait, tous les albums de BD sont des page-turners, en fait. Et moi, je me demande comment on fait pour se dire, voilà, on a fini une page et hop, on a envie de savoir la suite. Comment on fait?
Comment on fait? Ça tient au découpage.
Ouais.
Ça tient vraiment au découpage.
Là, c'est du cinéma, en fait.
C'est du cinéma.
C'est du montage.
C'est du montage, oui, absolument. C'est-à-dire que chaque vignette de fin de page doit donner envie de tourner la page suivante. Je suis aussi écrivain, donc j'écris du polar. Hein. J'en ai écrit un il y a peu de temps, je suis en train d'écrire le deuxième. Et pour avoir écrit la bio de Zhu Gefei, donc la petite fleur de Mandchourie, je sais aussi, en racontant même l'histoire de quelqu'un de vivant et son parcours, il faut toujours amener le lecteur à être dans ce désir de découverte, une page après l'autre, une page après l'autre, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc en fait, la dernière phrase de la dernière page doit servir d'amorce à la page suivante. Et pour la bande dessinée, ça se situe aussi bien dans le texte que dans la case, dans la proposition d'image. Voilà, de la même manière qu'une séquence au cinéma doit amener une autre séquence. Et il y a quelque chose qui disait, il faut trouver le sens aussi dans ce saut-là, dans cet espace-là. Il y a Tarkovsky qui disait que le cinéma, c'est ce qui se passe entre les plans. Je trouve cette image absolument géniale. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on montre directement, mais plutôt ce que va faire l'imaginaire du lecteur ou du spectateur quand il va partir d'une phrase pour sauter à la phrase suivante d'une page, à la page suivante d'une séquence ou d'un plan au plan suivant. Et voilà, c'est des leçons comme ça que j'ai pu apprendre au travers de mon apprentissage d'ailleurs des arts plastiques et du cinéma à l'université. Vous voyez, donc ce n'était pas inutile.
Oui, tout à fait. Alors, écologie, aventure et magie, ce sont les mots-clés qui fondent la série de Couchy, qui a été sélectionnée au Festival d'Angoulême 2018 pour le prix des collégiens. Alors, comment vous est venue l'invention de cette petite Couchy de 12 ans? Comment arrive ce personnage?
Alors, d'une part, j'aime les héroïnes. C'est ma façon à moi d'être féministe. Je trouve que la bande dessinée et la littérature comptent beaucoup de héros, beaucoup de petits garçons, beaucoup d'ados, etc. Garçons ont le devant de la scène la plupart du temps. Et j'ai une sensibilité particulière pour ces héroïnes parce qu'elles développent une énergie, une envie de vivre et de combattre, de lutter pour se faire une place aussi. Parfois pour réapprendre le monde, comme Yaya, qui est une enfant gâtée. Ça, c'était aussi très important. De passer d'un univers à un autre, c'est-à-dire un univers extrêmement protégé à celui complètement cruel et dangereux que devient la rue quand autour de soi la guerre éclate, par exemple. Je ne sais pas, c'est peut-être mon côté, c'est un peu ridicule de dire mon côté féminin, je ne sais pas, je crois qu'on est tous des êtres humains.
Et votre yin et votre yang.
Oui, c'est mon yin et mon yang. Ouais. Non, et puis Couchy, j'aimais bien l'idée d'une... Comme je vous dis, j'aime bien les héroïnes, j'aimais bien l'idée, peut-être que c'est la copine que je rêvais d'avoir quand j'avais 12 ans, quoi. Celle qui est capable de faire du cheval, de tirer à l'arc, de m'apprendre des tas de trucs et d'être complètement fasciné par elle, quoi.
Et donc en fait, vous, c'est Tilik.
Moi, je suis peut-être Tilik, ouais, un peu le mauvais élève et qui est un peu à la ramasse et transi d'amour en la regardant évoluer. Ouais, toute blague mise à part, c'est peut-être un peu ça. Où il y a peut-être aussi de moi dans Couchy, je crois sérieusement aussi. Alors, il y a un sujet important, c'est quand même... alors, elle me trottait depuis très 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 longtemps, cette petite héroïne, parce que je voulais une grande sœur à Yaya, voilà. Et puis je voulais parler de ces grands espaces de la Mongolie. Et puis j'ai été depuis quelques années alerté par l'équilibre précaire de la steppe qui est mis à mal par l'agriculture intensive, par exemple, qui peut y avoir dans ces provinces-là. C'est fragile, la steppe. Les ethnies originaires de ce coin-là de la planète, elles savent depuis des générations et des générations et des générations comment on se déplace, comment on fait paître certains troupeaux, puis après on les déplace, etc. C'est pour des raisons très 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 simples et très particulières, c'est que on a besoin de régénérer l'espace sans arrêt. C'est très fragile. Si on met des moutons ou des yaks ou des bœufs en pâture sur un même espace pendant 3 années de suite, ça marche plus,
ça
devient un désert,
terre.
Ça devient de la poussière, et puis c'est fini. Donc en fait, il y a ces questions-là qui sont très 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 importantes, et puis l'industrialisation forcée, à marche forcée aussi de certaines zones de cette province-là, c'est des problématiques en fait qui sont liées à nos problématiques d'aujourd'hui et qui doivent enfin nous alerter à tous. Et ça existe en Mongolie, mais ça existe dans tous les coins du globe. Je suis atterré par les gaz de schiste et qui voilà qu'on va chercher aussi bien au Canada, dans le Grand Nord, que aux États-Unis, etc. Et partout ailleurs. Et donc, si vous voulez, moi je pense qu'on est tous locataires de la planète. Hein, donc que ça se passe en Mongolie ou ailleurs, voilà, je suis sensible à ça. Bon là. En l'occurrence, j'avais envie de parler toujours de cet univers chinois et de cette particularité qui est ce territoire de la chinois qui contient cette ethnie, hein, la Mongolie intérieure. Donc, bon, je reste toujours dans l'univers chinois avec cette envie de parler de cette province-là.
Donc, avec un petit décalage géographique, et ça se passe dans les années 80, quand oui. La modernité commence à pénétrer la Chine et que la question se pose justement, l'opposition entre tradition et modernité. Pour terminer, vous avez une idée de ce qui pourrait se passer dans le cinquième tome ?
Ah oui.
Ah, bon ben vous ne nous le direz pas alors. Parce que, en fait, je vous engage à lire le quatrième. Et le quatrième, la steppe, oui, mais après, la grande ville arrive. Et ben, j'imagine que voilà, c'est couché dans la grande ville pour le cinquième tome. Eh bien, Patrick Marty, merci. On peut retrouver donc les aventures de Couchy, La fille du vent et tous vos autres ouvrages dans toutes les bonnes librairies, mais aussi à Paris, au 1 rue Frédéric Sauton, un espace dédié aux dessinateurs de bandes dessinées traditionnelles, comographistes chinois contemporains. Et je vous engage à aller y faire un tour. D'abord, le lieu est très agréable, le quartier aussi, et vous découvrirez de choses bien intéressantes.